BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Étienne Brack.
18h. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est Good Evening Business où nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, le journal de 18h. Nous allons revenir bien sûr sur ces Jeux Olympiques historiques qui se sont clôturés hier soir. Et puis nous allons parler également des cours du pétrole qui, ça y est, repartent à la hausse en ce lundi de plus d'1%, $80 pour le baril de Brent, avec l'OPEP qui a aujourd'hui publié son rapport mensuel. Alors certes, le cartel revoit à la baisse ses prévisions pour cette année, mais dans le même temps, vous avez toujours de vives inquiétudes au niveau géopolitique. Que faut-il penser de ce sujet? Nous poserons la question dans un peu plus de 10 minutes à Benjamin Louvet de Ophi Asset Management qui sera avec nous. Et puis ensuite, à partir de 17h30, nous allons parler des Jeux Olympiques, mais sous l'angle des paris sportifs, puisque vous avez l'ANJ qui est le régulateur des Jeux, qui va nous faire un petit bilan de ces Jeux Olympiques d'un point de vue paris. Un bilan très positif avec beaucoup de paris qui ont été exercés ces derniers jours. Quels sont les sports qui ont été les plus misés? Et nous allons parler bien sûr de tout ça avec la présidente de l'ANJ. Ça sera bien sûr à partir de 18h30. Mais tout de suite, à 18h01, c'est le journal de l'écho.
Good evening business, le journal.
Avec donc ces Jeux Olympiques qui se sont clôturés hier soir, avec la cérémonie que vous avez bien sûr suivie sur France 2, qui a rassemblé plus de 17 millions d'ailleurs de téléspectateurs, cette cérémonie de clôture. Et puis au lendemain de cette cérémonie de clôture, vous avez Emmanuel Macron qui a rassemblé aujourd'hui à l'Élysée les acteurs des Jeux Olympiques afin de les remercier, entreprises, mais pas seulement, tous les métiers qui ont participé à ces Jeux Olympiques. On écoute le président de la République.
Soit parce qu'elles ont financé ces Jeux, qu'elles ont été des partenaires aux côtés du COJO. Soit parce qu'elles sont aux côtés aussi d'athlètes de certaines de nos fédérations et qu'elles leur permettent justement d'avancer. Soit enfin parce qu'elles ont réalisé ces Jeux. Et ces Jeux ont été une formidable prouesse entrepreneuriale parce que partout sur le territoire, les plus grandes entreprises, fer de lance évidemment de notre filière sportive, GL Events et plusieurs autres, jusqu'aux PME, partout sur nos territoires, j'ai pu le voir, ont réalisé des prouesses extraordinaires. Ce savoir-faire français, on va continuer de le porter, parce que je veux que ces entreprises puissent continuer d'exporter ce savoir-faire français.
Voilà, Emmanuel Macron qui prenait la parole ce midi depuis l'Élysée avec les acteurs qui ont participé à ces Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques qui ont été une vitrine formidable pour la France, mais aussi pour les entreprises qui ont participé à ces Jeux Olympiques, qui vont peut-être décrocher de nouveaux contrats dans les mois, dans les années à venir, un moyen aussi de rencontrer de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs. Alors comment les entreprises françaises se sont emparées de ces opportunités? Astrée Olivier nous explique tout.
Les Jeux de Paris ont d'abord été l'occasion de booster les exports français. Business France a renforcé son réseau en organisant des rencontres entre entrepreneurs pour négocier de nouveaux contrats. Le DG Laurent Saint-Martin détaille son plan.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des événements de rencontres business entre des entreprises françaises, des acheteurs, des investisseurs internationaux et des entreprises étrangères qui ont permis notamment dans les maisons olympiques des pays qui participaient au JO ou dans les ambassades étrangères, eh bien, d'organiser ces networking qui font que plus de 250 entreprises françaises ont pu eh bien, valoriser leur savoir-faire et peut-être, on l'espère demain, signer des contrats avec des investisseurs étrangers.
La maire de Los Angeles, prochaine ville hôte des JO, était par exemple présente à l'une de ces réunions, une opportunité en or pour se positionner comme fournisseur officiel. Des réseautages qui ont joué à plein selon la région Île-de-France. Ce ne sont pas moins de 500 décideurs venus de 43 pays différents qui ont été accueillis à l'occasion des Jeux Olympiques.
Voilà donc pour les explications d'Astrée Olivier. Parmi les acteurs qui étaient impliqués lors de ces Jeux Olympiques, Potel et Chabot, le traiteur, était ce matin dans Good Morning Business afin de dresser un premier bilan de ces Jeux Olympiques avant les Paralympiques qui vont débuter à la fin du mois. Le groupe a servi plus de 120 000 repas ces 15 derniers jours. Amir Snahi, président de Potel et Chabot, était l'invité ce matin de BFM Business et nous a expliqué le rôle qu'a tenu son entreprise lors de ces Jeux Olympiques.
120 000 repas, 5 000 le soir de la cérémonie d'ouverture, dont tous les chefs d'État. Et 5 000 repas, cérémonie d'ouverture sous la pluie, c'était un sacré challenge. On a adapté les choses pour une clientèle internationale. On avait un équilibre de français et international. International, qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent des portions qui sont un peu plus grande. Il y avait des wraps, des burgers américains, il y avait de la cuisine asiatique. Donc maintenant, il y a plein d'énergie, plein de volonté pour capitaliser sur les JO. Et deuxièmement, c'est le savoir-faire qu'on a pu démontrer à tous les clients potentiels internationaux, que ça soit des donneurs d'ordre dans le monde des grands événements sportifs ou d'autres corporates qui ont vu le savoir-faire de la France, le savoir-faire de Potel et Chabot.
Amir Naini, président de Potel et Chabot, qui était ce matin l'invité de Good Morning Business. Et puis à l'occasion de cette cérémonie de clôture hier soir, le rendez-vous a été pris pour les prochains Jeux Olympiques d'été. Ça sera en 2028 à Los Angeles. Et les Américains, visiblement, vont bien s'inspirer des Jeux Olympiques de Paris. Les détails avec Julien Thibault.
Les organisateurs des prochains Jeux échangent régulièrement avec ceux de Paris 2024 et sont même venus sur place pour observer l'organisation française. Selon un membre du CIO, Paris a modifié l'approche des futures villes hôtes. Avant, les candidats voulaient tout construire, dit-il. Maintenant, on réfléchit aux rénovations, à des stades éphémères ou à l'utilisation de lieux hors du commun. Une formule que compte bien appliquer la ville californienne en accueillant des épreuves au Convention Center ou au Los Angeles Theater, tout en s'appuyant sur la richesse de ses nombreuses infrastructures sportives, comme le Memorial Coliseum ou le SoFi Stadium. Le comité d'organisation de Los Angeles 2028 compte sur un financement accru des partenaires privés, objectif 2,3 milliards d'euros selon son président. Les engagements signés dépassent déjà ceux de Paris 2024, qui s'élevaient eux à 1,2 milliard d'euros. L'accord passé par Los Angeles 2028 avec NBC Universal, diffuseur exclusif des Jeux Olympiques aux États-Unis, devrait définir des stratégies médiatiques inédites. C'est la première fois en effet qu'un comité d'organisation a un média diffuseur chargé de sa campagne de marketing.
Julien Thibault, et puis ça y est, malheureusement ou pas, la trêve politique est terminée puisque vous avez le nouveau Front Populaire via Lucie Casté qui a rouvert la page politique aujourd'hui, la candidate désignée du NFP au poste de Premier ministre, et ses alliés de gauche ont écrit une lettre à l'ensemble des parlementaires de l'Assemblée nationale, hors Rassemblement national, pour pousser leur pion et arriver à Matignon. Arthur Delaporte, député NFP du Calvados, était l'invité de BFM TV cet après-midi afin d'expliquer cette stratégie.
Oui, il y a nécessité aujourd'hui à ce qu'il y ait un gouvernement pour la France et plus particulièrement un gouvernement porté par le nouveau Front Populaire, mais un gouvernement qui gouvernerait dans le cadre de la réalité politique et institutionnelle de l'Assemblée nationale composite. Et l'objet de ce courrier, c'est bien de dire que nous sommes prêts à la fois à gouverner, mais nous sommes aussi prêts à discuter sur la base donc des grands thèmes et de la méthode qui a été annoncée ce matin par Lucie Casté.
Arthur Delaporte, député NFP du Calvados, qui était l'invité tout à l'heure de BFM TV. Donc après la trêve olympique, la politique reprend ses droits, hein, comme on vient de l'entendre il y a un instant. Alors comment aujourd'hui les patrons d'entreprise, les entrepreneurs se préparent à cette nouvelle page politique? Les détails avec Caroline Morisseau.
Tous sauf Lucie Castel, les patrons que nous avons sondés n'en démordent pas. On a un goût assez limité pour le nouveau Front Populaire, ironise l'un d'eux. Leur programme est extrêmement dangereux, c'est la recette pour la faillite de la France, assène un autre. En ce qui concerne les autres noms, en revanche, Xavier Bertrand, Gérard Larcher ou même le socialiste Bernard Cazeneuve, qu'importe. Tous sont des profils assez similaires de sociodémocrates, nous dit le patron d'un grand groupe industriel. Tous sont attachés à la politique de l'offre, principale priorité du patronat, et ils savent qu'ils n'ont aucun intérêt à tout casser, souligne un autre, quel que soit le casting gouvernemental, pour eux, peu importe, d'autant que tout se jouera à l'Assemblée, une Assemblée plus que jamais divisée, et c'est bien ce qui inquiète les responsables patronaux. Derrière, encore faut-il que celui qui sera nommé à Matignon tienne sans être renversé par une motion de censure. Tous redoutent du coup une forme d'immobilisme, certains d'ailleurs se font peu d'illusions. Les grandes réformes, c'est terminé, nous dit l'un d'eux, reste qu'entre l'immobilisme et un nouveau Front Populaire qui risque que de mettre, disent-ils, la France par terre, leur choix est fait.
Caroline Morisseau, et c'est dans ce contexte que l'OPEP a publié ce matin son rapport annuel, et face au ralentissement économique mondial et surtout face à une Chine qui met du temps à redémarrer, le cartel a revu à la baisse ses prévisions pour cette année. Il prévoit une production de 2,1 millions de barils par jour, soit un peu plus de 100 000 barils par jour en moins que lors de la précédente estimation. Néanmoins, cela reste bien au-dessus de la moyenne historique de 1,4 million de barils par jour observée avant la crise du Covid-19. Si le sujet vous intéresse, Business. Restez avec nous dans un peu plus de 5 minutes. Benjamin Louvet, directeur de gestion matières premières chez Ophi Asset Management, sera avec nous afin d'aborder ce sujet et puis surtout aussi afin d'aborder le sujet de l'once d'or qui est sur un plus haut historique aujourd'hui à 2 500 $. L'once d'or qui est portée par les tensions géopolitiques avec l'Ukraine qui, vous le savez, a fait une incursion armée d'une ampleur sans précédent la semaine dernière. En réaction, Vladimir Poutine a promis aujourd'hui de vouloir repousser les forces ukrainiennes dans la région russe de Kroussk, dans laquelle aujourd'hui plus de 100 000 civils auraient été déplacés. Vladimir Poutine.
Apparemment, l'ennemi cherche à améliorer sa position de négociation à l'avenir. De quelles négociations pouvons-nous même parler avec des gens qui attaquent sans discernement des civils, des infrastructures civiles, ou tentent de créer des menaces pour les installations nucléaires? De quoi peut-on leur parler?
Vladimir Poutine lors d'une prise de parole cet après-midi. Et puis au Moyen-Orient, la situation reste également très tendue. Les appels à une grève à Gaza se multiplient. La semaine dernière, les pays médiateurs, l'Égypte, le Qatar, les États-Unis avaient appelé à une reprise des discussions sur une trêve associée à la libération des otages. Et aujourd'hui, c'est la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui demandent de négocier un cessez-le-feu au plus vite. Dans ce contexte, Lufthansa, premier groupe de transport européen, prolonge la suspension de ses vols au Moyen-Orient jusqu'au 21 août, quand le groupe Air France KLM, de son côté, continue d'opérer Tel Aviv, mais annoncé prolongé jusqu'à mercredi la suspension des vols vers Beyrouth. Et puis un mot des États-Unis. Alors que la campagne de Donald Trump semble donner des signes d'essoufflement, il y aura un moment majeur de cette campagne présidentielle cette nuit pour nous en Europe, avec Elon Musk via son réseau social X qui va donner la parole à Donald Trump. Ça va se faire sous la forme d'une interview vidéo, une forme de comeback pour Donald Trump qui s'était fait éjecter de Twitter après l'assaut des supporters. C'était sur le Congrès américain en 2021. Et puis dans l'actualité des entreprises, Patrick Drahi accélère sur le désendettement de son groupe. Il a annoncé ce matin la vente d'un bloc important de plus de 24% de BT au groupe indien Bharti Airtel. Une estimation qui pour l'instant donne une opération à plus de 3 milliards d'euros. Les détails avec Marie-Cœur de Roy.
C'est la plus grosse cession de Patrick Drahi depuis le démarrage de son opération de désendettement. Environ 3,5 milliards d'euros tirés de la vente de sa part dans le britannique BT. Une somme qui, selon les calculs de Bloomberg, reste tout de même inférieure d'environ 1,5 milliard d'euros par rapport à ce qu'aurait payé initialement Patrick Drahi pour cette participation. Cette vente sera également loin de suffire à éponger la dette colossale de l'entreprise qui flirte avec les 60 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Pour autant, elle s'inscrit dans un mouvement plus global qui vise à rassurer les créanciers, mouvement qui s'accélère nettement. Entre les 710 millions que doit rapporter à terme la vente de ses data centers français à Morgan Stanley, celle de sa filiale média dont BFM Business faisait partie à CMA-CGM, la cession de Tids, spécialiste de la pub en ligne pour 1 milliard à une société israélienne, l'ouverture du capital de Sotheby's pour près d'un milliard également, et maintenant la vente de sa participation dans BT, Patrick Drahi aura récupéré plus de 7,5 milliards d'euros en moins d'un an.
Voilà les détails de Marie-Cœur de Roy. Et puis dans le secteur des transports, le Passerail ne rencontre pas le succès escompté. Vous savez, c'est un pass qui est réservé aux 17-27 ans, qui permet pour 49 euros par mois de voyager en illimité sur le réseau TER et Intercité, pass qui a une durée de vie illimitée. C'était uniquement pour les mois de juillet et les mois d'août. Selon les informations de bfmbusiness.com, plus de 200 000 passes ont trouvé preneur, alors que l'objectif était plutôt au-delà des 700 000. Et puis un faux départ également pour Stellantis aux États-Unis pour son pick-up d'entrée de gamme, le Ram 1500 classique, modèle fabriqué dans son usine du Michigan, qui va stopper la production, ce qui pourrait entraîner la suppression de près de 2500 postes à partir du mois d'octobre. Et puis, toujours dans l'actualité des entreprises, après avoir pris plus de 9% vendredi, Esker gagne plus de 3% à la Bourse de Paris. L'éditeur de logiciels confirme des informations de Bloomberg, selon lesquelles Esker est en discussion avec Bridgepoint concernant une offre éventuelle, mais l'éditeur lyonnais précise qu'il s'agit bien pour l'instant de discussions préliminaires. 18h14, tout de suite, on va sur les marchés. Avec un CAC 40 qui débute la semaine dans le rouge, très petite baisse ce soir pour commencer la semaine. Moins 0,26% pour l'indice parisien qui est toujours au-delà des 7200 points, 7250 points. Quand du côté de Wall Street, c'est une séance en ordre dispersé avec un Nasdaq qui prend un peu plus de 5% grâce notamment à Nvidia qui prend 4%. Mais dans le même temps, le Dow Jones recule de 0,15%. Le S&P, lui, de son côté, prend 0,2%. Un petit peu d'attentisme avant des indicateurs importants avec notamment les prix à la production demain et puis surtout l'inflation mercredi avant des ventes au détail, la consommation qui sera scrutée jeudi aux États-Unis. À noter que l'once d'or est sur un record historique au-delà des 2500 $ quand le pétrole est en hausse de plus d'1% à 81 $. Le pétrole d'ailleurs, on en parle dans un instant avec Benjamin Louvet qui nous expliquera le rapport de l'OPEP qui a été publié ce matin. Et donc le CAC 40, moins 0,26% pour commencer la semaine, 7250 points.
FM Business, premier sur l'écho. BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Étienne Brack. Good evening business.
Merci à vous si vous venez de nous rejoindre. 18h17, c'est BFM Business, c'est Good Evening Business avec Benjamin Louvet qui est avec nous ce soir en visio, directeur des gestions matières premières chez OFI Invest AM. Bonsoir Benjamin Louvet, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business en ce lundi 12 août pour aborder un rapport qui a été publié ce matin, un rapport de l'OPEP, rapport qui est publié tous les mois, avec ce matin quand même l'OPEP qui revoit à la baisse d'une façon assez marginale, mais vous allez nous expliquer son objectif de production de pétrole journalier, afin de tenir compte, je cite, d'un ralentissement économique en cours en Chine. Comment vous interprétez ce rapport qui a été publié ce matin par le cartel?
Bonsoir Étienne. D'abord, ce rapport, il surprend un peu les intervenants parce que on s'attendait à une révision un peu plus forte que ça. Il faut savoir que l'OPEP a des prévisions cette année qui semblent un peu optimistes pour beaucoup d'observateurs, puisque quand vous comparez aux prévisions d'autres agences, comme l'Agence internationale à l'énergie, qui est l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE dans leur politique énergétique, l'Agence internationale à l'énergie s'attend, elle, à une croissance de la demande cette année d'un million de barils par jour. L'OPEP avait une prévision de croissance de la demande de 2,235 millions de barils par jour avant cette réunion, enfin avant la publication de ce rapport. Et dans ce rapport ce matin, elles ont revu la demande à la baisse d'à peu près 135 000 barils par jour, ce qui fait qu'elle est encore à 2 100 000 barils par jour de croissance de la demande pour l'année 2024, avec une demande record en moyenne sur l'année à plus de 104 millions de barils par jour, ce qui battrait largement les records des années précédentes. Ça surprend beaucoup d'intervenants parce que on a aujourd'hui des craintes sur la croissance économique, effectivement en Chine, mais plus globalement, on a vu ces derniers jours des inquiétudes sur la croissance économique également aux États-Unis. Et donc, ça surprend de voir une révision aussi faible de la demande, une révision à la baisse aussi faible de la demande de la part de l'organisation du pétrole. Il y a aujourd'hui peut-être pas de raison de s'inquiéter. D'ailleurs, on le voit, les derniers chiffres en provenance des États-Unis étaient un peu meilleurs qu'attendu. Mais néanmoins, on trouve quand même le discours global de l'OPEP assez optimiste, parce que au-delà du rapport qui a été publié aujourd'hui, où il revoit que très légèrement à la baisse la croissance de la demande, l'OPEP a également ces derniers jours eu un certain nombre de réunions dans lesquelles ils ont évoqué le fait de commencer à réaugmenter leur production. Il faut savoir, ne pas oublier que depuis maintenant quelques mois, l'OPEP avait décidé de réduire sa production d'à peu près 2,2 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite avait, en plus de son propre fait, décidé d'augmenter la réduction de production d'un million de barils par jour sur sa propre production. Et l'OPEP envisage, à compter du mois de septembre, à compter du quatrième trimestre de 2024, de commencer à réaugmenter la production qu'elle mettrait sur le marché. Donc plutôt un avis très optimiste sur la croissance que ne partage pas forcément le marché. Néanmoins, il y a toujours une extrême vigilance de l'OPEP et de l'Arabie Saoudite sur ce dossier. Et donc, il n'est pas dit que leur position puisse pas évoluer sur ce sujet.
Avec, en effet, vous venez de le citer, le cas de l'Asie qui inquiète par rapport au ralentissement économique. Mais dans le même temps, si on dézoome un petit peu, la production depuis 2019 est toujours en forte hausse par rapport aux années pré-Covid.
Oui, bien sûr. La consommation, surtout, est en hausse par rapport à la situation pré-Covid. Effectivement, on continue à croître et l'OPEP, mais là aussi l'Agence internationale à l'énergie et toutes les agences qui suivent ce marché-là s'attendent à une poursuite de cette progression, même si elle devrait ralentir, et on devrait atteindre peut-être un pic quelque part entre 2026-2027 si les choses se passent bien. Mais il y a toujours une forte demande pour le pétrole, même si on doit en sortir. La croissance de la demande d'énergie est importante tous les ans, pas seulement la demande d'énergie en elle-même, hein, mais la croissance de cette demande est importante, notamment en provenance des pays d'Asie. Et de ce côté-là, on le voit, la demande pour le pétrole a tendance à continuer à croître effectivement, ce qui pose des problèmes dans le cadre de la transition énergétique.
Avec un pétrole qui prend quasiment 2% aujourd'hui, qui a repris, allez, grosso modo, quasiment 10% depuis ses plus bas d'il y a 15 jours, 3 semaines. Autant la semaine dernière, les cours du pétrole baissaient du fait de ce ralentissement économique qui est en cours, autant aujourd'hui, il remonte avec, bah, malheureusement, des tensions géopolitiques qui sont toujours très intenses. Est-ce que vous voyez encore le pétrole grimper longtemps entre, d'un côté, des tensions géopolitiques importantes et de l'autre, eh bien, une demande qui est un petit peu moins forte, comme vous l'avez souligné, qu'attendue?
Sur les tensions géopolitiques, Étienne, c'est très difficile à dire. Il y a une prise en compte par le marché, mais qui est extrêmement modérée, parce que l'histoire nous a montré, par exemple, après les attentats du 7 octobre, que les belligérants et notamment l'Iran, après les différents événements qu'il y avait pu avoir, Israël d'abord, et puis ensuite, quand il y a eu des réactions d'Israël, les réactions du Hamas ou de l'Iran, ou des deux cumulés, ont été relativement modérées pour montrer qu'elles répondaient, mais sans avoir un impact majeur sur le marché du pétrole. Donc le marché du pétrole reste encore relativement serein sur les risques de d'embrasement sur la zone. Donc là, pour ce qui est de la situation actuelle, on a un peu d'inquiétude sur la réponse de l'Iran, on attend de connaître son ampleur. Néanmoins, il y a un certain nombre de facteurs qui également protègent au-delà de cette prudence quelque part. Le marché attend de voir et pourra monter très violemment s'il y a effectivement une réplique forte de la part de l'Iran. Mais pour l'instant, préfère ne pas s'emballer. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, on l'a dit, pour l'instant, l'OPEP et l'Arabie Saoudite ont une capacité excédentaire de production qu'elles peuvent remettre sur le marché. Et ça rassure énormément les acteurs qui se disent, si demain il devait y avoir une interruption, eh bien l'OPEP a le moyen d'augmenter sa production pour pouvoir assurer une continuité. On a également la présence des États-Unis dans ce dossier qui est rassurante, avec l'envoi de navires militaires. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que, pour l'instant, on s'attend à un prix du pétrole, sauf embrasement de la zone du Moyen-Orient, qui devrait rester relativement stable. Pourquoi ? Parce que, je le disais à la hausse, si le prix du pétrole venait à trop monter, l'OPEP n'aurait d'autre choix que d'ajuster sa production en augmentant sa production pour que les prix du pétrole ne montent pas trop vite, parce que sinon ça risquerait d'impacter la croissance et donc de détruire une partie de la demande. Et à l'inverse, l'OPEP a clairement dit de l'autre côté que si les prix baissaient, eh bien ils pourraient réviser leur scénario de remise de pétrole sur le marché prévu à partir du quatrième trimestre de cette année. Donc on devrait avoir un prix du pétrole qui devrait se stabiliser quelque part entre 75 et 85 dollars le baril, tant qu'on n'a pas soit un embrasement de la situation géopolitique au Moyen-Orient, soit une très forte accélération de la consommation avec une reprise économique vigoureuse qui amènerait l'OPEP à remettre tout son pétrole sur le marché et on se retrouverait à nouveau dans une situation de tension importante, ou alors au contraire un effondrement de la croissance qui nous emmènerait dans une situation où les prix du pétrole pourraient beaucoup baisser. Normalement, le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est un prix qui se maintiendrait quelque part entre 75 et 85 dollars le baril.
81 dollars ce soir pour le Brent qui prend un peu plus d'1%. Un mot peut-être sur la Russie. Quelle est la place de la Russie aujourd'hui dans un marché pétrolier qui est fragmenté avec différents pays qui ont décidé de lui tourner le dos?
Oui, alors mais c'est un peu une posture. Je dis pas qu'il faut pas l'avoir, mais c'est un peu une posture parce que personne n'est dupe aujourd'hui. La Russie, c'est 10 millions de barils par jour de production, moins maintenant avec les réductions volontaires dans le cadre de l'OPEP+. Néanmoins, c'est quasiment 10% de la production mondiale. On peut pas se passer de 10% de la production mondiale de pétrole. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'un certain nombre de pays ont tourné le dos à la Russie, ont acheté leur pétrole ailleurs, et les pays qui auparavant achetaient ce pétrole aux pays qui sont devenus les fournisseurs de l'Europe ont acheté du pétrole à la Russie. C'est notamment le cas de la Chine et de l'Inde. Et donc ça a permis par un espèce de jeu de bonneteau, de maintenir les prix du pétrole dans une situation qui permettait à tout le monde de s'y retrouver. Mais il faut être très clair, le reste du monde ne peut pas se passer du pétrole russe aujourd'hui. On a essayé d'agir plutôt sur les revenus que celui-ci fournissait à la Russie, avec plus ou moins de succès. Mais la Russie reste un acteur incontournable de ce marché du pétrole.
En tout cas, 80 dollars, c'est un bon niveau aujourd'hui pour les groupes pétroliers. On a vu lors des résultats semestriels que les marges de raffinage avaient quand même pas mal baissé par rapport à l'année dernière.
Oui, mais le raffinage n'est pas forcément une activité qui est très rentable pour les groupes pétroliers. Ce qui est important pour l'économie, quelque part, ce n'est pas seulement le prix du pétrole, c'est surtout qu'on ait une relative stabilité du prix du pétrole pour que les groupes économiques puissent s'organiser. Et aujourd'hui, on a quand même une relative stabilité des prix du pétrole, et je pense que ça convient bien à tout le monde. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite fait pour l'instant le nécessaire pour que les prix restent sur ces niveaux-là, parce que eux gagnent correctement leur vie, la consommation n'en souffre pas trop, donc tout le monde y trouve son compte.
Voilà donc pour le pétrole aujourd'hui. Un autre actif aujourd'hui qui prend de la valeur, qui est même sur un record historique, c'est l'once d'or qui, ça y est, a franchi la barre des 2503 dollars pour une once d'or. Quel parcours quand même, Benjamin Louvet, plus 18% depuis le 1er janvier pour l'or.
Oui, c'est un très très beau parcours. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que les acteurs européens et les acteurs occidentaux d'une façon générale, donc européens et américains, n'ont pas tellement profité de cette progression. Pourquoi ? Quand on regarde les détentions, notamment d'ETF, de la part des acteurs occidentaux, eh bien on constate que depuis le début de l'année jusqu'à il y a quelques jours, elles étaient en baisse. Donc en gros, les acteurs européens avaient plutôt tendance, les Américains avaient plutôt tendance à sortir de ce marché. Pourquoi ? Bah parce que on a retrouvé du rendement sur les autres classes d'actifs, et donc comme l'or, quand vous détenez de l'or, ça vous rapporte rien, ça avait un peu moins d'intérêt pour eux. Donc l'essentiel de la hausse du début d'année est venu essentiellement de la demande de deux acteurs, les investisseurs chinois. Pourquoi ? Parce qu'on avait des très mauvaises performances sur le marché actions, très mauvaises performances sur le marché immobilier, donc il fallait sortir l'argent de ce secteur-là et puis le mettre ailleurs. Et l'or est considéré comme un actif refuge dans les pays asiatiques et notamment en Chine, de même que le dollar. Mais en ce moment, le dollar fait l'objet d'une certaine défiance de la part de ces pays depuis que les États-Unis ont un peu utilisé le dollar comme une arme pour contrer les ambitions de la Russie en confisquant les avoirs en dollars de la Russie à l'étranger. Et donc les autres nations se disent, tiens, on a peut-être une crainte là-dessus. Et donc l'or prend plus d'importance. Puis on a eu les banques centrales des pays asiatiques en particulier, mais pas seulement, et notamment la Banque centrale de Chine, qui ont acheté beaucoup d'or. L'année dernière et l'année d'avant, elles avaient battu des records en termes d'achat d'or depuis 1967, c'est-à-dire avant même la fin des accords de Bretton Woods. Elle continue en début d'année. Le premier trimestre a été le meilleur premier trimestre depuis que les données sont enregistrées. Au deuxième trimestre, on a eu une hausse de la demande des banques centrales de 6% par rapport à l'année dernière, sur le deuxième trimestre. Et puis, quand on les interroge aujourd'hui, elles disent que dans les 12 prochains mois, elles veulent continuer à augmenter leur allocation à l'or. C'est ça qui a fait monter l'or dans la première partie d'année. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la deuxième partie d'année ? Eh bien, je le disais, les raisons qui font acheter de l'or aux Occidentaux sont que l'or n'a pas de rendement, donc son intérêt va être retrouvé par les investisseurs quand le rendement des autres classes d'actifs va avoir tendance à baisser. Or, depuis quelques temps, on commence à parler de plus en plus d'une baisse des taux aux États-Unis et d'une poursuite de la baisse des taux en Europe au deuxième semestre. Et donc, les acteurs commencent à se réintéresser à l'or. Je le disais, les détentions d'ETF depuis une dizaine de jours sont reparties à la hausse, un peu plus de 2% de hausse de ces détentions d'ETF. Et ça, si la Banque centrale américaine rentre dans une phase de baisse des taux en deuxième partie de l'année, eh bien, ça pourrait ramener les acteurs occidentaux, américains, européens à l'achat sur l'or, et ça pourrait permettre à l'or de connaître une nouvelle vague de progression et l'emmener potentiellement sur des nouveaux records, potentiellement, selon nous, chez OFI Invest AM, aux alentours de 2800 à 2900 dollars. Ça nous semble être un objectif raisonnable compte tenu aujourd'hui des attentes de baisse de taux qu'il y a aux États-Unis. Il faut savoir que, grosso modo, on considère que, historiquement, quand les taux d'intérêt baissent d'à peu près 1%, on peut s'attendre à une progression de l'or de l'ordre de 20 à 22%. Donc, si on attend une baisse des taux de l'ordre de 1% dans les 12 à 18 prochains mois de la part de la Banque centrale américaine, eh bien, on pourrait s'attendre à une hausse du cours de l'or de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que ça pourrait nous emmener quelque part tout près des 3 000 dollars l'once.
Très clair. Merci beaucoup, Benjamin Louvet, de nous avoir accompagnés ce soir, directeur de gestion matières premières chez Ofi Invest AM. Et donc, l'or qui est sur un record historique ce soir, au-delà des 2 500 $ pour une once d'or, c'est une hausse de 1,3%. 18h30, restez avec nous, très courte pause. Et puis, dans un instant, nous allons faire un petit bilan des Jeux Olympiques, mais sous l'angle des paris sportifs. Quel premier bilan tirer ? Isabelle Falk-Pierrotin sera avec nous dans un instant. C'est la présidente de l'Autorité nationale des Jeux. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h32 sur BFM Business, avec donc les Jeux Olympiques qui ont été clôturés hier soir au terme d'une très belle cérémonie à Saint-Denis. L'occasion pour nous de faire un petit bilan de ces Jeux Olympiques, pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue paris sportif. Est avec nous ce soir Isabelle Falk-Pierrotin. Bonsoir Isabelle Falk-Pierrotin. Merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. Vous êtes la présidente de l'ANJ, c'est l'Autorité Nationale des Jeux. 70 épreuves étaient ouvertes au Paris lors de cette édition des Jeux Olympiques 2024. Bon, à chaud, quelle première réaction, quel premier bilan vous pouvez tirer d'un point de vue des paris sportifs ? Isabelle Falk-Pierrotin, que l'on va retrouver dans un instant, qui est avec nous en visio, la présidente de l'Autorité nationale des Jeux, afin notamment de tirer un premier bilan sur notamment eh bien les paris sportifs qui ont été nombreux, hein, bien plus nombreux que lors des précédents Jeux à Tokyo. C'était il y a 4 ans. Nous reparlons dans ce sujet dans un instant avec notre invité. Juste avant, je vous propose de faire un petit point sur le secteur immobilier. Secteur immobilier qui, on l'a vu ces derniers temps, a connu quelques secousses avec la hausse des taux. Que faut-il penser de ce secteur aujourd'hui ? Élément de réponse avec Marie-Cœur de Roy.
Enfin, des données exhaustives sur les marges de négociation en immobilier. Le spécialiste de la data Priceable a recoupé les dernières transactions enregistrées par les notaires avec un historique des annonces immobilières. Et au dernier pointage, ce travail de fourmi nous dit que la marge de négociation culminait en moyenne à près de 8% en France. Alors, quand on compare au prix médian des achats réalisés, cela représente une baisse de prix d'environ 16 000 euros par rapport au prix affiché au départ par le vendeur. Ces chiffres s'arrêtent à la fin de l'année dernière, mais ils donnent la mesure de ce qu'on peut réellement obtenir. Sachez par exemple que seuls 6% des biens vendus n'ont pas été négociés sur le dernier trimestre de 2023. Pour un tiers, on est sur une baisse de prix de 5 à 10%. Plus d'un quart sont partis 10 à 20% moins cher. Enfin, on est même au-delà des 20% de baisse de prix pour environ 13% des logements vendus. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Peut-on toujours autant négocier ? En attendant la remontée des dernières données des notaires, on peut regarder le baromètre mensuel LPI-IAD qui porte sur le mois de juin et qui nous dit que les marges de négociation continuent d'augmenter. On a même frôlé les 9% à l'échelle nationale et c'est 2 fois plus que la moyenne des 15 dernières années. Alors évidemment, on ne négocie pas tout de la même manière et sur tout le territoire. Côté appartement, par exemple, sachez qu'on oscille autour de 5-5,5% de marge en Rhône-Alpes et en Alsace, alors qu'on atteint des marges moyennes autour de 10-12% en Auvergne, Poitou-Charente, Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Limousin et Champagne-Ardenne. Notez que dans les régions les plus chères du moment, en l'occurrence à l'Île-de-France et la région PACA, les baisses de prix obtenues en ce moment par les acheteurs oscillent autour de 7,5%. Vous l'aurez compris, c'est donc plus que jamais le moment de négocier. Les vendeurs le savent, le crédit reste compliqué à obtenir, plus compliqué en tout cas qu'il y a 2 ans, et là-dessus les acheteurs n'y pourront rien. Autrement dit, la seule solution pour que l'achat ait lieu, c'est bien que le vendeur baisse ses tarifs. Des vendeurs qui sont en train de payer leur gourmandise de ces derniers mois, ils ont eu tellement de mal à accepter de baisser leur prix qu'ils sont de plus en plus pressés et accordent des ristournes beaucoup plus élevées qu'ils ne l'auraient souhaité. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun logement à vendre qui ne soit pas négociable, à l'exception évidemment des biens parfait, mais ils sont assez peu nombreux. Et vous avez d'autant plus intérêt à négocier que plus vous ferez baisser le prix, plus vous ferez également baisser le coût de votre crédit en réduisant sa durée.
Marie-Cœur de Roy qui faisait un point avec nous sur les marges de négociation dans le secteur immobilier. Chronique que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet, hein, comme l'ensemble de notre contenu sur bfmbusiness.com. Je vous rappelle que dans un instant, nous serons donc avec Isabelle Fac-Pirotin, la présidente de l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux, le temps de, ça y est, poster un petit peu, de mettre une liaison technique viable. Juste avant, on vous propose de revenir sur les Jeux Olympiques, mais d'un point de vue un petit peu organisation, d'un point de vue événementiel, avec Amir Naï, qui était ce matin avec nous, c'est le président de Potel et Chabot. Il était l'invité de Good Morning Business afin de revenir sur le rôle important qu'a joué son entreprise lors de ces Jeux Olympiques.
Absolument, ça a dépassé toutes nos attentes. Quel privilège de pouvoir servir le monde, de pouvoir servir les athlètes, de pouvoir servir tous les invités qui sont venus en France. Et vraiment, c'est un énorme honneur pour nous, pour les 650 collaborateurs de Potel et Chabot et de Sinclair, d'avoir pu faire ça pendant les JO.
L'occasion de démontrer un savoir-faire. Comment est-ce que vous allez pouvoir maintenant surfer sur ce succès ?
Écoutez, deux manières. La première, c'est en interne. Comme je vous ai dit, nos collaborateurs ont vraiment été ravis. On surfe une vague d'énergie interne, une vague de fierté interne. Donc ça, faut capitaliser dessus. Une des leçons qu'on a appris des JO, c'est vraiment d'entreprendre des projets difficiles. Et maintenant, il y a plein d'énergie, plein de volonté pour capitaliser sur les JO. Et deuxièmement, c'est le savoir-faire qu'on a pu démontrer à tous les clients potentiels internationaux, que ça soit des donneurs d'ordre dans le monde des grands événements sportifs ou d'autres corporates qui ont vu le savoir-faire de la France, le savoir-faire de Potel et Chabot.
C'est intéressant ce que vous dites. On parle souvent du succès des entreprises à l'international auprès de leurs clients. Là, vous nous dites, pour les équipes, c'est un énorme succès, c'est un facteur de cohésion et elles vont redémarrer à la rentrée gonflées à bloc.
C'est vrai, absolument. Ouais. Et ça, je suis allé dans nos laboratoires la semaine dernière, dans nos cuisines, dans le 16e de Paris, 16e arrondissement de Paris, à Saint-Ouen-l'Aumône, dans notre centre de distribution à Beson, et tout le monde est vraiment ravi d'avoir pu participer à ces Jeux.
Près de 120 000 repas servis à l'occasion des Jeux Olympiques. Vous aviez quand même une grosse responsabilité puisque la gastronomie, ça fait aussi partie des vitrines de la France. Ça veut dire quoi ? Vous n'aviez vraiment pas droit à l'erreur ?
Vraiment pas. 120 000 repas, 5 000 le soir de la cérémonie d'ouverture, dont tous les chefs d'État. Et donc, notre grande peur, c'était d'empoisonner un des chefs d'État.
La sécurité, heureusement, alimentaire, ça la sécurité alimentaire, c'était votre principale préoccupation ?
Sécurité alimentaire, bien sûr, c'est la préoccupation de base. Et après, c'est l'expérience. Le goût, la scénographie, l'expérience qu'ont tous les clients. Et 5000 repas, cérémonie d'ouverture sous la pluie, c'était un sacré challenge.
J'imagine. Quel a été votre principal défi ?
C'était vraiment la cérémonie d'ouverture, je dirais.
Ouais.
C'était tous les préparatifs et après la cérémonie d'ouverture qui était extrêmement difficile. Parce que imaginez-vous, on faisait le Trocadéro, pont de l'Alma, pont de la Concorde, d'autres endroits, mais vraiment exposés à la pluie. Donc les cuisines étaient sous la pluie, les collaborateurs étaient sous la pluie et c'était un vrai défi.
Comment est-ce que vous vous êtes adapté au goût de la clientèle internationale ? Est-ce qu'on peut à la fois être la vitrine gastronomique de la France et s'assurer que ça plaise quand même au plus grand nombre? Je veux dire, on va pas servir des cuisses de grenouille à tout le monde, quoi.
C'est vrai. Écoutez, on a essayé de faire les deux. Oui. Donc, on a fait un long travail avant et on a adapté les choses pour une clientèle internationale. On avait un équilibre de français et international. International, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est souvent des portions qui sont un peu plus grandes et des items qui viennent de cuisine internationale. Il y avait des wraps, des burgers américains, il y avait de la cuisine asiatique. Donc, on a vraiment essayer de tout mettre en avant, notre savoir-faire dans la gastronomie française, mais aussi tout ce qu'on fait à l'international. Et Potel et Chabot a beaucoup d'expérience à l'international aussi.
Les hospitalités, on en a parlé, c'était la première fois qu'on organisait des hospitalités pour les Jeux Olympiques. Le succès est un petit peu moins prononcé que ce qu'on espérait. Pour quelle raison, à votre avis ? Parce que c'était la première fois ?
Écoutez, nous, on était ravis des JO, vraiment. Et on a trouvé que les hospitalités, d'un point de vue qualitatif, étaient vraiment, vraiment bien. Les clients ont adoré. Après, c'est vrai que dans certains cas, je trouve que les packages étaient peut-être un peu chers. Oui. Et donc, on a découragé une certaine partie de la population à venir. Mais franchement, c'était un grand succès. Et pour nous, ça a dépassé les attentes.
J'aimerais qu'on parle un peu de votre entreprise Potel et Chabot, repris l'an dernier par le groupe Accor. Comment se porte aujourd'hui l'entreprise ?
Très bien. Écoutez, oui. Accor connaît Potel et Chabot depuis longtemps. On a commencé notre investissement, je dis notre, c'est Accor a investi chez Potel et Chabot en 2017. Et en octobre de cette année, on a racheté les 60% qui ne nous appartenaient pas. Et donc Accor est maintenant actionnaire seul à 100% de Potel et Chabot et Sinclair et ça se porte très bien. Qu'est-ce qu'on a fait aux Jeux Olympiques, excusez-moi, c'est en partie grâce au soutien de Accor et des équipes de Accor.
Justement, oui. Qu'est-ce que ce rachat vous a apporté ? Est-ce que vous auriez pu, sans cet actionnaire, être partenaire premium des Jeux Olympiques ?
Non, certainement pas. On aurait participé aux JO, mais pas de cette manière. On n'aurait pas été aussi présent au Club France, par exemple. On n'aurait été pas aussi présent sur les sites olympiques et on n'aurait pas eu la visibilité qu'on a. Donc certainement, l'appui de Accor, le soutien de Accor et la présence de Accor est significative dans le développement de la maison.
Ça, c'est un message intéressant pour les chefs d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur parfois de s'adosser à un grand groupe pour gagner en puissance, en force de frappe.
Absolument, ouais. Absolument.
Merci beaucoup d'être venu ce matin en plateau. Amir Nahi, président de Potel et Chabot, félicitations pour cette performance, sans faute apparemment, pour la gastronomie française et pour l'image de notre pays à l'international. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Amir Nahani, président de Potel et Chabot, qui était donc l'invité ce matin de Good Morning Business avec Stéphane Pedradi. 18h43, vous restez avec nous tout de suite, comme promis. On va parler des paris sportifs avec un premier bilan des Jeux Olympiques. Avec Isabelle Fagre-Pierrotin, qui est avec nous ce soir par téléphone, présidente de l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. Bonsoir, bonsoir Isabelle Fagre-Pierrotin. Merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. Présidente de...
Bonsoir, merci.
Donc de l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. Dans un instant, on va parler de votre rôle de régulateur. Mais juste avant, quand même, peut-être un petit mot, un premier bilan par rapport à ces Jeux Olympiques avec des paris sportifs qui ont été bien plus nombreux cette année que lors de la précédente estimation. C'était il y a 4 ans.
Je crois que les Français, il y avait en moyenne un Français sur deux qui annonçait qu'il allait suivre les JO et un tiers allait parier. Vu le succès, le caractère absolument exceptionnel de ces JO, effectivement, les paris sont au rendez-vous. Et on n'a pas totalement les chiffres définitifs encore, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les paris en ligne, les paris sportifs en ligne, on est à peu près autour de 288 millions d'euros, plus les paris en point de vente, FDJ. Donc, a priori, on va culminer autour de 400 millions d'euros, qui était la fourchette haute que nous avions prévu, c'est-à-dire effectivement c'est 4 fois Tokyo. Et Tokyo était déjà un record. Donc ça veut dire que vraiment là on a des jeux qui ont pris une importance au niveau des paris qui est totalement inédite puisque en fait jusqu'à présent les JO étaient pas tellement pariés par rapport à d'autres compétitions comme l'Euro ou les championnats mondiaux de foot ou de rugby par exemple.
Cette année, c'est 70 épreuves qui étaient ouvertes au Paris, ce qui est quand même assez peu par rapport aux 329 épreuves au total. Quel est votre rôle, vous, en tant que présidente de l'ANJ, en tant qu'autorité nationale des Jeux ?
Alors, nous, par rapport à cette compétition, en fait, on s'est assuré que les manipulations sportives qui peuvent intervenir autour des paris sportifs n'allaient pas se développer. Et donc, il y a un dispositif totalement exceptionnel qui a été mise en place à l'initiative de l'ANJ et qui associe à la fois à peu près 25 collaborateurs français venus à la fois de l'ANJ, du ministère des Sports, des enquêteurs du service central des courses et jeux, donc du ministère de l'Intérieur, du COJOP, du parquet de Paris, enfin donc toutes les autorités publiques qui sont concernées par la lutte contre les manipulations sportives et, c'est ça qui est original, les acteurs privés nationaux et internationaux, par exemple la Française des Jeux, et les partenaires internationaux, c'est-à-dire les plateformes de lutte contre les manipulations qui existe dans plus de 40 pays. Et là, on a 24 pays qui nous ont aidés à lutter contre les manipulations sportives, c'est-à-dire repérer finalement les atypismes de paris et intervenir si nécessaire. Donc il y a plus de 100 matchs qui ont été mis sous surveillance particulière. Et heureusement, je dirais que tout ce dispositif de dissuasion, quelque part, a fonctionné puisque, en fait, in fine, on n'a pas eu, de problèmes majeurs concernant ces manipulations sportives.
Avec en tête des sports le football, mais aussi le tennis, il y a également eu un effet natation hein, avec Léon Marchand hein, qui a gagné plus de 4 médailles lors de ces Jeux Olympiques. Du point de vue...
Et les frères tennis de table également, avec les frères Lebrun.
Avec les frères Lebrun, en effet, un peu plus de 13 millions de mises hein, pour l'instant qui ont été comptabilisées sur le tennis de table. Comment ça va se passer maintenant, dans un sens où ces chiffres, en effet, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, vous, votre rôle, c'est de faire attention à ce qui est pas trop de dérives, et puis surtout que les joueurs misent, ok, mais avec certaines barrières, il ne faut pas miser plus que ce que l'on peut.
Bien sûr, c'est pour ça que nous avions réuni l'ensemble des opérateurs français quelques temps avant les JO et avant l'Euro d'ailleurs, pour leur faire passer le message responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il se passe, on ne voulait pas qu'il se passe cette année ce qui s'était passé en 2021, 2022, au moment de l'Euro de foot, c'est-à-dire une sorte de déviance et une suractivité publicitaire notamment à l'occasion de ces paris sportifs. Et donc globalement, les opérateurs ont joué le jeu. C'est-à-dire que les publicités, les plus accessibles, les plus hyperboliques, ciblant le plus les jeunes, et on sait que ce sont les jeunes qui sont un public vulnérable, ont été quand même relativement encadrés. Et donc, je crois que nous allons continuer ce travail de repositionnement quelque part du modèle économique des opérateurs en matière de paris sportifs. On leur dit, écoutez, vous avez un marché qui est en pleine croissance. C'est quand même un marché qui, depuis 2011, a cru à plus de 20% par an tous les ans. Donc, c'est un marché qui est très porteur. Mais effectivement, ce marché, il entraîne un certain nombre d'effets négatifs, notamment auprès des publics vulnérables et notamment les jeunes qui sont évidemment très, très intéressés par ce type de paris. On sait que le chiffre d'affaires de ces opérateurs, il est pour une part importante, plus de 38% en matière de paris sportifs fait à partir des joueurs excessifs. Donc si vous voulez, c'est des joueurs excessifs, c'est des joueurs qui ont développé une addiction aux paris et qui ont un certain nombre de troubles scolaires, psychologiques, surendettement, etc. Et donc nous, notre message et notre travail dans les mois à venir, c'est d'aider les opérateurs à développer leur marché, mais en jouant sur le jeu récréatif et en essayant d'éviter que ça soit uniquement à partir des joueurs excessifs que le business de ces opérateurs se fasse.
Avec aujourd'hui le digital qui, j'imagine, vous aide beaucoup aujourd'hui dans cette régulation, puis aussi dans cette prévention, dans le sens où aujourd'hui vous arrivez à voir les usages de chacun et à les maîtriser.
Ben, le digital est une arme à deux faces, c'est un peu un janus, parce qu'effectivement, à la fois, il nous permet bien de savoir ce qui se passe opérateur par opérateur, mais en même temps, il permet à ceux-ci d'avoir une publicité extrêmement ciblée, très targetée sur certains publics, et notamment ce public vulnérable, 18-24 ans. Le parieur sportif, la moyenne d'âge du parieur sportif, c'est 28 ans. Et on sait qu'à 28 ans, enfin, même avant, d'abord on est intéressé par ce type de pari, qui est un pari urbain, qui est un pari relativement simple, et que par ailleurs, quand on est jeune, on n'a pas des revenus très importants, et on est probablement plus fragile en termes d'émotion. Donc, si vous voulez, c'est une cible qui est à la fois recherchée, mais particulièrement vulnérable. Donc, on se sert de l'obligation qu'ils ont d'identifier. Les opérateurs français ont une obligation qui est d'identifier et d'accompagner les joueurs excessifs. Il y a, en France, une population qui a été identifiée en 2019 de 1,4 million de joueurs ayant un problème de jeu, dont 400 000 joueurs excessifs. C'est trop. Et donc, on veut aider les opérateurs à respecter cette obligation légale Et donc, on est en train de les accompagner sur cette obligation en leur donnant finalement des recettes, des indicateurs leur permettant de mieux identifier leurs joueurs.
Et comment aujourd'hui on peut aider des personnes qui ont une dépendance un petit peu trop forte au jeu? Comment aujourd'hui vous pouvez les accompagner?
Alors, on peut les accompagner d'abord en les sensibilisant de façon générale. On a lancé une campagne de prévention que vous avez peut-être vue au moment de l'Euro et des JO, qui était en fait centrée sur les mentions légales. Vous savez, les mentions légales, c'est en matière d'alcool, boire ou conduire, il faut choisir. Et en matière de jeu, c'est par exemple, le jeu peut créer des effets négatifs, addiction, etc. Le problème, c'est que ces mentions légales, ces petites phrases, la plupart des gens passent devant sans finalement se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Et donc nous avons voulu donner vie à ces mentions légales, d'abord en leur donnant une existence visuelle disproportionnée. En fait, on les a grossis dans les publicités que nous avons lancées, en faisant un bandeau jaune extrêmement important. Et ensuite, ce bandeau, lorsqu'on clique dessus, il se déroule et il fait apparaître toute une série d'histoires qui raconte en fait les effets réels de l'addiction. Et donc, si vous voulez, je crois que ça, c'est une campagne qui a été très appréciée, notamment par le public jeune, parce que finalement, elle met de l'humain derrière des espèces de slogans qui, de temps en temps, sont un peu inodores pour le grand public. Donc ça, c'est un premier type d'action. Ensuite, il y a tout un dispositif, justement, d'accompagnement des joueurs excessifs qui existent en France, que nous promouvons, nous obligeons nos opérateurs, enfin les opérateurs économiques français à le marketer, à le faire savoir, et surtout on oblige les opérateurs économiques français, les opérateurs de jeux d'argent, d'identifier cette population des joueurs excessifs. Vous voyez, quand quelqu'un commence à complètement changer ses habitudes de jeu, sollicite de façon excessive le service client pour avoir sans cesse des bonus, est très agressif avec le service client, il y a un certain nombre d'indicateurs qui font penser que ce joueur, il commence à être en souffrance. Et donc les opérateurs, au lieu finalement de développer leur business avec ce type de joueurs, ils ont l'obligation, un, de les identifier, et deux, de leur offrir un service d'accompagnement. Et nous sommes l'autorité publique qui est chargée de veiller au respect de cette obligation légale.
Très clair. Merci beaucoup Isabelle Fakirotin de nous avoir accompagnés ce soir. Vous êtes là donc la présidente de l'ANJ, l'autorité nationale des jeux. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business afin de nous éclairer un petit peu plus sur le rôle de l'ANJ et puis également afin de faire un premier bilan sur les paris de ces Jeux Olympiques avec donc pour l'instant la barre des 400 millions de paris qui a été dressée. C'est beaucoup plus que lors des précédentes estimations puisque c'était 122 millions lors des Jeux de Tokyo. Merci Isabelle Fakirotin, présidente donc de l'ANJ, qui est avec nous ce soir sur BFM Business.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.